France Culture.
Divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, le Grand Orient de France. Une émission proposée et présentée par Fabrice Millon et Alexis Lacroix. Nous avons le bonheur, chers auditeurs, chères auditrices, en ce dimanche matin, de recevoir un homme qui est un grand spécialiste de l'histoire de la maçonnerie. Dans le langage un peu technique, on va en parler, on parle de la maçonnologie. Bonjour Pierre Mollier.
Bonjour Alexis.
Vous êtes historien, vous êtes notamment historien de la maçonnerie. Vos travaux d'ailleurs font référence au-delà même des frontières de l'Hexagone. Et vous exercez plusieurs fonctions. Vous êtes le directeur du musée de la franc-maçonnerie, qui est rue Cadet. Vous êtes aussi le directeur de la bibliothèque attenante du Grand Orient de France, qui est un très bel endroit, on va en parler dans un instant. Alors beaucoup de nos auditrices, beaucoup de nos auditeurs qui nous retrouvent régulièrement dans divers aspects de la pensée contemporaine savent quand même, grosso modo, ce qu'est la maçonnerie. Aujourd'hui, c'est connu, même de beaucoup de personnes qui en sont éloignées, qui ne sont pas initiées et qui n'ont pas l'intention d'être initiées. En revanche, les contours de ce qu'on appelle la culture maçonnique sont plus difficiles à définir. Comment, Pierre Mollier, peut-on définir, aborder les contours de la culture maçonnique, d'après vous ?
Alors, qu'est-ce que la culture maçonnique ? C'est une vaste question, et une question très intéressante, parce qu'elle met en place des enjeux qui nous font réfléchir. Ce qu'on peut dire, c'est que la franc-maçonnerie en France est une vieille institution et que parmi ses membres, elle a eu des auteurs, des artistes. Et on peut imaginer que les valeurs de la maçonnerie qu'ils ont partagées et les usages qu'ils ont pratiqués ont influencé leur œuvre.
Donc des auteurs, des artistes qui étaient peut-être pour un certain nombre d'entre eux initiés de manière ouverte, j'allais dire, de manière limpide. Qu'est-ce qu'on peut citer justement comme exemple de cette espèce d'ouverture progressive vers l'extérieur, en dehors des temples, de personnes qui sont par ailleurs initiées, qui ont contribué de ce fait à extérioriser la culture maçonnique?
Alors je vais prendre deux exemples très connus, mais très différents, l'un au XVIIIe siècle, l'un au XXe siècle. Au XVIIIe siècle, c'est bien sûr Mozart, qui a été un maçon actif, c'est assez documenté, et l'œuvre de Mozart nous permet d'essayer de cerner ce qu'est la culture maçonnique.
Alors vous m'autorisez juste une incise à ce stade, Pierre, c'est passionnant. Qu'est-ce que la culture maçonnique hein, j'ai mis la barre très haut là, au début de ce questionnaire. On dit souvent que la flûte enchantée, par exemple, de Mozart, c'est une œuvre entièrement maçonnique. C'est vrai ou c'est une légende urbaine, d'après vous, Pierre Mollier?
Alors, les analystes discutent de ça depuis des siècles, enfin deux siècles. Pour moi, l'œuvre de Mozart, elle est multiple et elle illustre bien ce lien avec la maçonnerie. D'abord, Mozart a fait des œuvres maçonniques, c'est-à-dire des musiques pour les cérémonies des loges, etc. Et donc là, il n'y a pas de doute possible, c'est de la musique maçonnique. Ensuite, il a utilisé parfois des références à la franc-maçonnerie, comme dans La Flûte Enchantée. Alors le grand débat, c'est est-ce que La Flûte Enchantée est un opéra codé ? C'est pas mon sentiment, ça serait le sujet d'une émission en soi, c'est pas mon sentiment. En revanche, par exemple, il y a des œuvres qui peuvent paraître un peu loin de la maçonnerie, qui pourtant en sont imprégnées, comme La Clémence de Titus. La Clémence de Titus illustre des valeurs maçonniques, l'attention aux autres, la bienveillance, l'ouverture d'esprit. Et donc, Mozart nous donne une sorte de palette de l'influence que peut avoir la maçonnerie sur l'œuvre d'un artiste. Et l'autre exemple que je voulais prendre à l'opposé.
Donc au XXe siècle.
Donc voilà. Au XXe siècle, voilà. Alors, qui est aussi bien connu et qui est dans un domaine radicalement différent, c'est Hugo Pratt, l'auteur du célèbre Corto Maltese.
Alors, je dois dire que j'ai omis de citer le livre que vous lui avez consacré. Donc, vous êtes un grand spécialiste, effectivement, de Corto Maltese. Hein.
Alors, on a fait une exposition au musée qui a eu beaucoup de succès. Voilà. Et Hugo Pratt, un peu comme Mozart, il a fait des œuvres qui sont directement maçonniques, comme Fable de Venise, où Corto Maltese rencontre des maçons. Enfin, c'est ostensiblement maçonnique. Mais il a aussi semé des allusions maçonnique dans ses autres albums qui peuvent paraître bien loin de l'univers des loges.
Alors, question qui va, je pense, passionner beaucoup de nos auditeurs, même si ce n'est pas au cœur de notre émission d'aujourd'hui, mais Pierre Mollet, puisque vous évoquez l'œuvre d'Hugo Pratt, qui est essaimée mondialement, qui est aussi connue que celle de Tintin ou d'Astérix, il était lui-même une figure censément maçonnique, Corto Maltese ?
Alors, le personnage de Corto Maltese, c'est pas franc-maçon, il est franc-marin, comme il dit.
Oui, enfin, voilà, absolument. Mais est-ce que c'est une façon de...
Alors, c'est une façon détournée.
Ouais.
Mais Hugo Pratt a été un maçon très actif. C'est assez récent, donc on a de très nombreux témoignages. C'est quelque chose qui l'a passionné. Et donc, il y a cet album extraordinaire, Fable de Venise. Et puis, dans d'autres albums, je pense par exemple aux Helvétiques, un album un peu tardif, ou son dernier album, il y a dans Wheeling, dans la dernière version de Wheeling, toute une scène maçonnique qui est un peu son testament maçonnique. Il est malheureusement mort quelques semaines après.
Alors, Pierre Mollier, c'est passionnant. Vous êtes un spécialiste de l'histoire de la maçonnerie. Vous êtes aussi le directeur du musée de la franc-maçonnerie et de la bibliothèque du Grand Orient de France. On évoque la culture maçonnique. Dernier point. Qu'est-ce qui la caractérise par-delà la différence des artistes ou des écrivains que vous avez cités? Est-ce que c'est pas un humanisme foncier contre toutes les tentations anti-humanistes et aujourd'hui, comme on le sait, post-humaniste ou même transhumaniste?
La franc-maçonnerie, elle a beaucoup évolué en 3 siècles. Mais il y a des constantes. Et par exemple, il y a 2 constantes, c'est la fraternité et la tolérance. Mmh. Et je crois qu'il ne peut pas y avoir de franc-maçonnerie, de pratique maçonnique, de valeur maçonnique sans cette idée de fraternité et de tolérance. Et ça, effectivement, on va le retrouver dans les œuvres des artistes maçons.
Alors, c'est une conversation passionnante ce matin que nous avons ensemble dans divers aspects de la pensée contemporaine. Pierre Mollier, vous êtes historien de la maçonnerie avec d'autres fonctions que je viens d'évoquer. Alors, c'est vrai que c'est une constante des préoccupations des loges maçonniques, et notamment, bien sûr, au Grand Orient de France. Le grand maître actuel, d'ailleurs, en est parfaitement conscient. Il veut extérioriser la culture maçonnique le plus possible, c'est-à-dire la rendre accessible à un large public qui n'est pas forcément initié, mais qui pourrait le devenir. Quels sont les instruments, aujourd'hui, Pierre Mollier, dont nous disposons pour faire mieux connaître, en quelque sorte, cette culture initiatique et humaniste qu'est la culture maçonnique?
Alors, l'instrument le plus accessible, c'est le musée, qui est un musée de France, donc un musée ouvert au public, dont d'ailleurs l'essentiel des visiteurs ne sont pas maçons. Et donc, c'est un musée qui illustre, qui explique ce que c'est que la franc-maçonnerie et qui illustre la contribution des loges dans ces 3 siècles d'histoire de France.
Alors, vous évoquez le fait qu'il y a beaucoup de visiteurs qui viennent dans le musée que vous présidez et qui ne sont pas maçons. Une quantification, j'allais dire même un tout petit peu approximative.
Écoutez, oui, on a à peu près 20 000 visiteurs par an. On est un petit musée et on considère qu'à peu près les 2/3 des visiteurs ne sont pas maçons ou pas encore maçons, devrait-on dire.
Oui, c'est ça. J'imagine que vous êtes dans cette optique, Pierre Mollier. C'est passionnant. On évoque la culture maçonnique. Alors, quels sont les autres instruments, justement, qui existent pour la faire connaître?
Alors, au-delà du musée, la bibliothèque, et on peut dire que c'est un souci ancien du Grand Orient, puisque le musée dont on a parlé a été créé en 1889, et la bibliothèque est un peu plus ancienne. Elle a été créée en 1838, et c'est une bibliothèque alors qui est d'abord ouverte aux maçons qui font des recherches pour leurs travaux, mais qui est aussi ouverte au public, et donc on peut y venir, par exemple, on a un certain nombre de gens qui font de la généalogie ou qui s'intéressent à un artiste. Mon premier cas, il y a 30 ans, quand je me suis occupé de la bibliothèque, un monsieur qui était un chercheur qui vient me voir et qui travaillait sur Firmin Gémier, dont je n'avais jamais entendu parler. Et en fait, Firmin Gémier, j'ai découvert que c'était le Jean Villard de la Troisième République, un homme très important dans l'histoire du théâtre, et il a été extrêmement actif au Grand Orient, et donc sa vie maçonnique a influencé son œuvre, et par-delà son œuvre, la pratique du théâtre au XXe siècle.
Alors on le sait, il y a aussi des préjugés qui entourent la culture maçonnique, et notamment tout ce conspirationnisme anti-maçonnique qui a toujours existé, depuis Léo Taxil jusqu'à nos jours. Est-ce que faire connaître mieux ce qu'est la culture maçonnique participe justement au désamorçage de ces préjugés encore vivaces, encore tenaces dans certains secteurs de l'opinion?
C'est curieux parce qu'effectivement, on rencontre beaucoup de gens dans ce musée, des milliers de gens, et on explique et on réexplique que la franc-maçonnerie est une vieille institution. En France, j'allais dire tout le monde a un cousin, un voisin, une amie, une belle-sœur maçonne.
Les loges... Si on résume, pardonnez-moi de vous interrompre, Pierre Mollier, mais c'est vrai que vous le savez mieux que quiconque, on peut dire que la République en France, notamment la Troisième République, mais même celles qui lui ont succédé, a été largement construite par cet humanisme maçonnique qu'on évoque.
La Troisième République, et notamment dans sa phase fondatrice, entre 1880 et 1914, est presque une œuvre maçonnique. C'est un exemple qui suscite la fierté des maçons et les frissons des anti-maçons, mais c'est effectivement une période où les loges réfléchissent, font des propositions, les députés maçons les transforment en loi, et donc c'est comme ça que ce vieux pays rural et un peu conservateur est devenu une démocratie moderne.
Alors on s'interroge avec vous sur cette culture maçonnique, vous l'avez admirablement définie. Vous avez commencé avec Mozart, vous avez poursuivi avec d'autres figures, et notamment celle d'Hugo Pratt. Aujourd'hui, il faut mieux faire connaître. Comment, très concrètement, Pierre Mollier, comment on s'adresse aux jeunes générations, aux gens de 20 ans ou de 30 ans, pour les convaincre que c'est intéressant d'aller voir du côté des ateliers, du côté des loges?
D'abord, on les accueille au musée, et donc on a de très nombreux groupes, y compris des groupes scolaires d'ailleurs, où on explique l'histoire de la franc-maçonnerie. Je crois que pour mieux faire comprendre la franc-maçonnerie, il faut en tout cas d'abord expliquer ce qu'elle est, expliquer son histoire, expliquer sa contribution à notre histoire, et mon sentiment, c'est que si on fait tout ça, on montre que la franc-maçonnerie ni ange ni démon. Les francs-maçons n'ont pas tout inventé, n'ont pas fait tout ce qui est bien, mais ils en ont fait un certain nombre, et les francs-maçons non plus ne sont pas dans ces complots obscurs. Ce sont des hommes et des femmes qui essayent de faire en conscience leur métier de citoyen et de réfléchir sur les grandes questions de l'existence.
Alors nous sommes justement dans une époque de désorientation éthique par bien des aspects. C'était une formule que le philosophe allemand Ernst Tugendhat avait employée en son temps. Est-ce que justement ce discours fondé sur des valeurs humanistes et initiatiques répond pour partie à des interrogations que vous sentez monter dans la jeunesse, dans les jeunes générations, des interrogations, pour le dire d'un mot, sur le sens, la question du sens, le besoin de sens, Pierre Mollier?
Il est vrai qu'on a aujourd'hui, notamment de la part des jeunes générations, beaucoup de questions sur l'initiation, les rites. Je dirais qu'on nous fait crédit des valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité. On sait que la maçonnerie est très associée à ça. Mais ce qui suscite la curiosité aujourd'hui, eh bien, c'est plus l'enseignement interne, en quelque sorte, et initiatique de la franc-maçonnerie.
Alors là, justement, question subsidiaire par rapport à cela, Pierre Mollier, comment, depuis les postes d'action qui sont les vôtres, on fait pour transmettre cette culture initiatique, cette spiritualité maçonnique, on peut le dire comme ça,
Eh bien, il faut utiliser les outils de son temps. Donc, par exemple, la bibliothèque a maintenant un site. Nous sommes en train d'essayer de créer une sorte de Gallica maçonnique, pourrions-nous dire, avec un peu de prétention, qui s'appelle Patrimoine maçonnique, et où les visiteurs de notre site web vont découvrir les grands textes de la franc-maçonnerie, les grands documents de la franc-maçonnerie. S'ils veulent poursuivre une recherche, ils vont sur le site de la bibliothèque, où ils peuvent faire de véritables recherches. Et d'abord, il faut effectivement être sur les outils que les gens consultent et utilisent aujourd'hui.
Alors justement, c'est très intéressant, Pierre Mollier, pardonnez-moi de vous interrompre, vous êtes le directeur du musée de la franc-maçonnerie et de la bibliothèque du Grand Orient de France. Les outils, justement, les outils, cette question des outils est très intéressante. On peut dire que en 2025, on sent ça, on sent une extériorisation progressive des institutions que vous dirigez. Et il y a quelques dorsales d'actualité que nous voulions évoquer ce matin ensemble dans divers aspects de la pensée contemporaine avec vous, Pierre Mollier.
Alors justement, sur cet aspect initiatique, la bibliothèque et le musée ont présenté il y a quelques jours un document tout à fait extraordinaire. Alors on sait que la franc-maçonnerie moderne, sa date de naissance un peu c'est 1717, qui marque le basculement d'une maçonnerie liée au métier à une maçonnerie plus philosophique. Et en fait, il y a un document plus ancien, en 1686, c'est un document très rare, c'est un livre anglais qui s'appelle « L'histoire naturelle du Staffordshire » et où il y a une description d'une loge pendant 4 pages. Donc c'est le plus ancien document un peu conséquent sur la maçonnerie qui parle de ses rites. Et donc nous avons été très contents de pouvoir le présenter au public. Et sinon, notre exposition temporaire au musée aujourd'hui est sur un sujet qui touche l'opinion, qui est sensible aux enjeux de la nature, de l'écologie. C'est sur ce qu'on appelle la maçonnerie du bois, c'est-à-dire les sociétés initiatiques de métiers liées au bois, à la forêt.
Alors nous traversons, Pierre Mollier, à l'évidence, une crise de civilisation qui prend de multiples aspects, vous venez de l'évoquer. Il y a notamment la crise du rapport à la nature, du rapport à la biosphère, pour parler comme les écologues ou les écologistes. Qu'est-ce que la maçonnerie, justement, et le Grand Orient de France en particulier, ont à délivrer comme message sur cette crise et sur les moyens d'y remédier, d'après vous?
Ça, c'est une question qu'il faut poser aux politiques du Grand Orient. Moi, je ne suis qu'un historien.
Et même en étant historien. À la lumière de l'histoire, vous devez avoir quand même des pistes explicatives.
Alors, quand on visite cette exposition sur cette maçonnerie du bois, on voit que le XVIIIe siècle, c'est un peu l'antiquité de notre monde. C'est-à-dire, c'est la période fondatrice. Et on voit donc un grand intérêt pour la nature. C'est peut-être le début d'une vision positive de la nature et des rapports de l'homme avec la nature. Donc, venez découvrir cette exposition exposition sur les initiations forestières des bons cousins aux carbonari, puisque c'est aussi l'origine des carbonari qui ont joué un grand rôle au XIXe siècle dans l'essor des idées démocratiques. Et vous découvrirez un aspect un peu méconnu de la maçonnerie.
Méconnu et évidemment très intéressant. Alors on a évoqué des initiatives qui se déroulent en grande partie à Paris et notamment bien sûr rue Cadet, Pierre Mollier avec vous. Peut-être peut-on terminer en deux minutes, peut-on évoquer quelques initiatives qui se déroulent aussi dans les régions, dans les grandes villes de province et dans les régions en général, justement pour mieux faire connaître cette culture maçonnique dont vous êtes aujourd'hui l'un des principaux historiens.
Alors la franc-maçonnerie est une des dimensions de l'histoire de France, et effectivement pas une ville, pas une région où elle a joué un rôle. Et souvent d'ailleurs, quand on regarde l'histoire des grandes et moyennes villes en région, on s'aperçoit qu'au XIXe siècle, les deux tiers des maires appartiennent à la loge. Et donc régulièrement, nous organisons en région des expositions où nous essayons de mettre ensemble une sorte d'histoire maçonnique générale pour faire découvrir ce que nous sommes. Et puis, tous ces témoignages du rôle de la maçonnerie dans ces régions. On a fait des expositions à Toulouse, à Lyon, à Caen, à Lens, à Lille, et donc très régulièrement, c'est une façon de montrer le rôle de la maçonnerie sur le terrain et de faire découvrir les rôles des loges dans notre histoire depuis le XVIIIe siècle.
Alors on le sait, en ce qui concerne le Grand Orient de France, chaque année il accueille de nouveaux membres. On va dire que le nombre d'adhérents ne cesse d'augmenter. Il est aux environs un petit peu moins de 55 000 aujourd'hui. Qu'est-ce que ça signifie, selon vous, cette faveur relative, mais quand même certaine, du public?
C'est un fait de l'histoire maçonnique du XXe siècle. C'est la croissance de la maçonnerie à partir des années 1980 et jusqu'à aujourd'hui. Le Grand Orient de France a gagné, par exemple, entre 500 et 1000 membres par an dans ces 30 dernières années.
Ce qui n'est pas négligeable.
Voilà. Alors, c'est que elle correspond aux aspirations, aux besoins de réflexion des hommes et des femmes de notre temps.
Prendre le temps de la réflexion, merci. C'est ce que nous venons de faire avec vous, Pierre Mollier. C'était divers aspects de la pensée contemporaine, à la technique Mineta Diawara, à la préparation et à la coordination éditoriale Claire Poinsignon, à la réalisation notre ami l'indispensable Jean-Christophe Francis. Merci encore cher Pierre Mollier, on vous souhaite un bon dimanche ainsi qu'à toutes nos auditrices. Tous nos auditeurs, et le mois prochain, on se retrouvera en compagnie de Nicolas Penin, le grand maître du Grand Orient de France.
Merci Alexis, et que nos auditeurs viennent visiter le musée de la franc-maçonnerie, rue Cadet.
Absolument, il faut les y inciter. Merci.